Bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure dans le but d'aider, de soutenir et d'informer les hommes à risque, les personnes nouvellement diagnostiquées, les survivants et leurs familles. Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez l'homme. C'est aussi la troisième cause de mortalité et au Québec seulement, 12 hommes par jour en reçoivent un diagnostic. Pourtant, c'est encore un sujet tabou pour plusieurs. Les balados Procure se veulent des discussions franches et transparentes avec patients, accompagnateurs, médecins, chacun avec leurs histoires personnelles et leurs expériences face à la maladie. Nous espérons que cet outil répondra à des questions que vous n'avez peut-être pas osé poser et surtout vous permettra de voir que vous n'êtes pas seul. Nous vous rappelons que Procure offre un service de soutien téléphonique et en ligne 7 jours sur 7 avec des infirmières spécialisées en uro-oncologie pour répondre à vos questions et vos inquiétudes. Nous sommes là pour vous et vos proches. Contactez-nous. Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle série de balados « Cancer de la prostate sans tabou ». Une série de balados qui, je l'espère, saura répondre à vos questions et à vos préoccupations, surtout par rapport au cancer de la prostate. Nous aurons différents sujets dont nous traiterons avec des différents invités, évidemment. Je suis Isabelle Pagé, votre animatrice, et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, notre sujet, vous savez, les êtres humains, nous sommes des êtres de relation. Quand on est en couple, on cherche le ou la bonne partenaire. On fait ça en amitié aussi, évidemment, on cherche des complices. Mais j'aurais jamais pensé transposer ce lien relationnel entre un médecin et son patient. Et c'est ce dont nous allons parler avec nos invités aujourd'hui. Donc, Jean, fils aimé, merci d'être là. Patient, survivant du cancer de la prostate.
Merci Isabelle de me recevoir.
Ça me fait plaisir. Et Dr. Peter Vavassis, radio-oncologue. Vous êtes tous les deux, messieurs, co-auteurs aussi d'un livre qui s'appelle « Le cancer de la prostate en noir et blanc ». Vous avez collaboré, donc vous avez été en relation par patient-médecin. Vous avez collaboré à l'écriture de ce livre. Vous dites que c'est noir et blanc, mais pour l'avoir vécu avec mon papa qui a été diagnostiqué à l'âge de 49 ans du cancer de la prostate, il y a beaucoup de zones grises hein, dans le cancer de la prostate. D'abord, Jean-Fils Aimé, j'aimerais vous entendre par rapport à... Parce qu'avant d'avoir un spécialiste qui va vous suivre et qui va vraiment vous accompagner pendant votre cancer de la prostate, pendant cette aventure que ça va durer, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais vous avez dû en rencontrer plusieurs des médecins avant d'arriver à Dr. Vavassis.
Est-ce que je peux te tutoyer?
Bien sûr, bien sûr.
Parce que je vais appeler Peter. Peter, pour moi, ce n'est plus Dr. Vavassis. Nous sommes devenus deux bons amis, deux frères. Au fil des années, ses enfants me considèrent comme un oncle. Donc, je suis un ami de la famille. Et son chien me reconnaît à plusieurs mètres déjà. Bon. Effectivement, c'est drôle. Moi, tout ce qui est hôpital, tout ce qui est médecin, j'aime pas ça. Parce que j'ai une histoire. Je suis un prématuré. Et donc, lorsque je suis né avec beaucoup de boutons sur le corps. Mon père a été arrêté par Duvalier, et lorsque une amie indélicate est venue raconter la chose à ma mère, donc elle a rompu les os, je suis né 3 semaines avant terme. Et donc, toute ma vie, je devais recevoir au moins une piqûre par semaine à l'hôpital. Et donc, j'associe médecin, hôpital à torture. En sorte que j'ai toujours tout fait pour me tenir loin de tout ce qui est médecin, de tout ce qui est hôpital, etc. Mais la vie va décider autrement. Peter et moi, nous sommes de bons amis, nous avons écrit un livre, etc. Oui, j'ai eu plusieurs médecins, entre autres un médecin de famille qui m'avait dit, écoutez, à 40 ans et plus, il faut faire un check-up annuel, etc. Bon, voilà, puisqu'il était sympathique, j'ai accepté. Il m'a envoyé faire un APS, il a trouvé que c'était pas normal, c'était un peu élevé. Il m'avait dit, OK, vu que c'est un premier, tu dois en faire un dans 6 mois. Je suis pas retourné dans 6 mois, ça dit quelque chose à Peter. Parce que je dis, ah, mais c'est correct, j'ai rien.
On le connaît jamais.
Oui. Un an plus tard, je suis retourné, l'APS était encore plus élevé. Et là, il dit, ah, non, c'est sérieux. C'est combiné désormais avec un toucher rectal. Il dit, ah, ouf. Il faut faire une biopsie. Et là, je fais la biopsie, 19 prélèvements, je pense, et il y avait un prélèvement qui avait un tissu cancéreux. C'était pas grave, mais il fallait faire quelque chose. Et donc, le médecin qui m'a présenté les résultats me dit, voici les choix. Je peux y aller avec l'option qui consiste à enlever complètement la prostate ou il y a une autre thérapeutique qui est justement la radiothérapie. Évidemment, lorsque j'ai comparé les avantages et les inconvénients, j'ai opté pour la radiothérapie. Sauf que je l'ai fait vraiment sur la base de ce que j'avais entendu à Procure. Et là, je dois faire une fleur à Procure parce que je ne savais absolument rien de la radiothérapie. Pas plus que je ne savais rien de la prostate, absolument. Je ne savais rien parce que j'avais personne dans mon entourage.
Mais ça, c'est difficile. Ça m'amène à une question par rapport à ça. Comment on se prépare et en fait, je vais vous la poser à vous, Dr. Vavasis, parce que, bon, je connais un peu, là, les gens vont aller sur Internet, vont aller parler à des amis, vont s'informer ici et là, vont aller, vont essayer de rassembler le plus d'informations qu'ils peuvent. Mais en tant que spécialiste, en tant que médecin, comment vous aimez voir votre patient arriver? Quelle est la préparation que le patient devrait avoir quand il arrive dans votre bureau?
C'est une excellente question. Ça prend une préparation parce que il faut que le patient ait fait un certain cheminement. Ça prend pas une sous-préparation et ça prend pas une mauvaise préparation. Donc, il y a là aussi le bémol. Et tout ça vient des ressources qu'on consulte. Donc, si on se lance dans la direction de juste fouiller, hein, mettons Internet, on fouille puis on cherche des renseignements, on peut tomber sur n'importe quoi. Et ça permet une compréhension, des perceptions qui sont fausses carrément et qu'on est pris à défaire avant de parler des vraies choses. Donc, j'ai enchaîné en disant ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une certaine préparation, c'est-à-dire de s'informer, de parler là en disant « je ne comprends rien ». Mais de s'informer de la bonne façon, c'est-à-dire de s'informer simplement en allant chercher dans des ressources sûres, procure de bon exemple.
Tout à fait.
On ne le dit pas pour faire...
Non, mais on le sait, parce que dans il y a la ligne aussi, vous voyez le numéro derrière nous, la ligne Procure qui est là, il y a des spécialistes qui répondent au téléphone, qui répondent aux questions et qui peuvent aider les patients à vraiment faire une liste de questions même.
Et que les informations ont été déjà évaluées. Donc, il y a des gens experts, reconnus, qui ont regardé ces informations et ont dit « oui, c'est la bonne chose ». À divulguer aux patients. Donc, déjà, on part avec un certain filtrage d'informations dans la bonne direction. Mais après ça, je pense qu'il faut simplement prendre autant qu'on peut selon notre niveau de compréhension, notre niveau d'absorption. Merci, Jean. Et ensuite, on arrive, puis on pose nos questions, on prépare des questions, puis on les pose. Le spécialiste n'est pas là, Procure n'est pas là pour faire le travail du médecin pour qu'on aille à moins travailler. Le but ici est simplement que le patient arrive avec une certaine notion et les bonnes questions qu'on puisse répondre à ça.
Mais c'est parce que aussi, quand vous arrivez avec le diagnostic, on vous l'annonce en tant que patient, on entend le mot cancer, on a beau être en 2022 puis l'avoir entendu maintes et maintes fois, ça sonne,
absolument.
Ça cogne. Là.
D'autant que dans mon cas, à part le fait que, comme je viens de le dire, je suis un prématuré, donc j'avais des boutons sur le corps, donc je prenais une piqûre par semaine, mais je n'ai jamais été malade. Et donc, lorsque la secrétaire de l'urologue m'a appelé pour me dire que l'urologue veut me rencontrer, ben voilà, j'allais un peu de fantaisie. Je revenais de vacances, ok, bon, c'est un autre rendez-vous de chez le médecin, mais pas plus que cela. Et là, lorsqu'il m'a dit, tiens, j'ai un cancer, cancer pour moi est synonyme de mort, parce que... Oui, bien sûr, il y a cancer de ceci, cancer de cela, mais on entend d'abord le mot cancer, d'autant que dans mon cas, j'avais aucune préparation, on va dire, en matière de recherche là-dessus. En attendant de recevoir les résultats de la biopsie, moi, je savais que j'étais correct, donc je ne suis pas allé sur Internet lire au cas où. En sorte que lorsque l'urologue m'a dit que je l'avais, il m'a remis un livre. Et c'est peut-être pour ça que Peter et moi avons été amenés à écrire le livre, mais c'était un livre fait pour les médecins très spécialisés. Je n'aimerais pas le nom de l'auteur, mais mon Dieu, j'ai un doctorat, mais je suis quand même malade que de devoir passer à travers plusieurs pages avec des termes techniques, et puis même les photos, les illustrations, c'est des gens très âgés, puis tu vois bien, ouf, oh là là, ça a été un coup de massue.
Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à ce moment-là?
Si
vous
dites,
ce livre-là était trop théorique.
Non, il était trop théorique. Il était
vous voulez entendre quoi à ce moment-là?
Ce que je voulais entendre, c'est pas pour lui faire une fleur, c'est ce que je vais entendre de lui, Peter. C'est de dire, voici les options. Moi, je suis un gars d'options, là. Ne m'assommez pas avec plein de littérature. J'ai le cancer, c'est le fait. Quelles sont les options? Et pour chaque option, il y a avantages et inconvénients. Okay. Et moi, je vais balancer les avantages et les inconvénients. C'est quand même mon corps, c'est quand même ma vie. Lui, il est l'expert. Et là, une fois que j'aurai compris ce que je peux comprendre, parce que je ne suis pas dans le meilleur état d'esprit pour comprendre non plus.
Non.
Hein, parce que je ne peux pas me détacher de moi-même pour dire, bon, il y a un corps, il y a moi, c'est moi. Donc,
oui. Et il y a une inégalité d'expertise.
Voilà.
C'est-à-dire, aussi deux personnes de la même intelligence, mais un qui est dedans depuis 15 ans et l'autre qui vient d'arriver, même si on a enlevé le facteur émotionnel, déjà, il serait désavantagé.
Absolument.
Quand on ajoute l'émotionnel, l'enjeu par-dessus, il n'y a aucune chance. On ne peut pas parler en termes égaux. Et simplement négocier, discuter. Il est désavantagé.
Je suis désavantagé. Et d'autant que je suis amer. Parce que.
Ou dans le déni, un peu.
Oui, je suis dans le déni, c'est les deux. Et puis, déni, amertume, colère. Et c'est lui qui mange tout cela. Parce que, il dit, souvent, comment on pense comme profane? On dit, écoutez, pour être malade, il faut avoir fait quelque chose. Et on fait sa petite liste, on dit, je ne fume pas, je ne bois pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et lorsqu'il m'a dit non, ça n'a rien à voir avec toi en tant qu'individu, il y a un certain nombre de facteurs que tu ne contrôles pas, etc., tu commences à être soulagé un peu.
Bon.
Et là, et c'est ce que je n'ai pas trouvé dans le livre, peut-être que c'est dit dans le livre, mais c'est tellement dilué dans plein de considérations théoriques que non, on aurait pu écrire ça en 10 pages pour me dire voici l'état de la gravité. Voici les options, avantages et inconvénients. Et là, si j'avais toutes ces informations-là avant de rencontrer Peter, je serais venu avec des questions plus intelligentes. Si bien que dans ma deuxième rencontre avec lui, après qu'il m'a présenté la chose en des termes simples, j'ai compris. J'avais mes préjugés vis-à-vis de lui parce qu'au début, il est trop élégant, il est trop jeune, je dis. Est-ce que c'est un vrai docteur ou bien un
mannequin? Oui, non, vous avez douté.
Oui, bien sûr. Il arrive d'ailleurs. Je suis assis dans sa clinique comme ça. Il arrive d'un autre bureau de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais j'ai eu le malheur de le voir arriver. Il arrive très élégant, un sac en bandoulière. Moi, ce n'est pas l'image que je me fais du médecin qui va traiter un cancer. C'est drôle, on a jamais le préjugé. Et ma conjointe était à côté de moi. On se serre les mains et puis on dit, ah, mais c'est pas vrai.
J'espère que c'est pas lui.
J'espère que c'est pas lui. Il m'a même parlé incrédible.
Puis en tant que spécialiste, Dr. Vavassis, qu'est-ce que vous. Parce que là, Jean dit clairement, j'ai eu besoin de temps. Est-ce que vous avez le temps de donner du temps aux patients?
Ça, c'est une question extrêmement piégée. Dans le sens que.
C'était pas mon but.
Sais. Dans le sens que c'est certain que la réponse est non. Et si tu regardes ça d'un point de vue de gestionnaire, d'un hôpital, d'un département, la réponse gestionnaire ou chef serait toujours, ils vont toujours vouloir plus de temps.
Ouais.
On va passer 2 heures avec le patient. 4 heures, la fin de semaine, ça serait l'idéal. Donc, ça ne finira jamais. Donc, il y a un équilibre. La vérité, c'est que non, on n'a pas assez de temps sur le volume de patients qu'on doit voir pour donner le temps qu'on veut. Parce que une partie de ce temps-là peut être que je t'annonce quelque chose et ça prend 15 minutes de silence où tu te mets à pleurer et que j'attends respectueusement, idéalement. Mais là, ce qui arrive habituellement, c'est que le patient dit « Oh, je m'excuse, c'est lui les yeux, il ne veut pas faire perdre du temps. »
Il le sait que la salle d'attente est pleine.
Il vient d'attendre une heure de plus qu'il devrait parce que je suis en retard des autres. Yeah. Donc, les patients sont gentils l'un envers l'autre. Donc, lui, il s'empresse. Donc, ça défait toute cette notion-là. Par contre, une chose que je pense est primordiale, c'est que personne ne peut forcer un patient de prendre sa décision, sauf lui ou moi, on s'entend. Hein?
Ouais.
Il faut que je t'opère, sinon tu meurs dans 10 minutes. Bon, décide.
Là, il faut choisir.
C'est maintenant. Mais sinon, et dans le cas de Jean, voici les options, on en discute, parfait. J'imagine que vous n'êtes pas prêt à prendre une décision. Et en plus, je vous recommande pas de prendre la décision comme ça, sur le vif. Allez chez vous, réfléchissez, discutez avec votre famille. Informez-vous. On peut se parler dans une semaine ou deux. Et c'est ça qui est arrivé. Je l'ai reconvoqué, je pense, 2-3 semaines plus tard. Peut-être un mois.
Un mois.
Puis, il avait réfléchi. Puis là, quand il est revenu, c'était une autre personne. C'était très intéressant parce qu'on a vu la transformation qui a eu lieu. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas une relation interpersonnelle. C'était une première rencontre.
On est au début qu'on a compris qu'il ne vous voulait pas comme médecin.
Exactement. Donc là, exact.
Oui, parce qu'il n'entrait pas dans mon profil de médecin qui doit traiter un cancer. Je m'attendais à voir un vieux médecin, puis... Moi, élégant, moi, machin, ça veut dire quelqu'un qui semble être tellement plongé dans son travail que...
Il ne peut pas faire autre chose.
Il ne peut pas faire autre chose, mais lui, je vois bien, c'est un homme élégant, machin, je dis, mais il semble avoir une vie en dehors de cela. Et donc, lorsque je l'ai vu, mon premier réflexe a été, ah, est-ce que c'est un vrai?
Comment il se fait le processus quand vous retournez chez vous pour dire, bon, mais ça va être mon médecin, je l'accepte, comment on s'ouvre à ça?
C'est son honnêteté. Ah. Au début, à la première rencontre, je lui pose des questions comme si c'est lui qui était responsable de mon cancer. C'est comme lorsque la météorologue annonce un mauvais temps. On est fâché contre la météorologue.
C'est un bon exemple.
Mais ce n'est pas elle qui est responsable. Elle nous l'annonce seulement. Eh bien, Peter, c'est lui qui mangeait un peu toute ma colère contre la nature. Et puis là, il est resté très affable, très sympathique. C'est comme s'il est habitué à ce genre de ressentiment-là. Mm. Il ne l'a pas pris personnel, il me comprend, et puis il répondait à mes questions. Parce que je suis à la fois très intuitif et très rationnel aussi. Ça veut dire si quelqu'un me baratine ou bien me bullshit, mais je vais le voir tout de suite là. Non, lui, il apportait les réponses selon l'état de la science. Et là, il n'essayait pas de me dire ce que je voulais entendre, il me disait ce que la science disait en ce moment-là. Et donc, ça m'a rassuré. Il dit OK. Et là, il me dit, je vous donne jusqu'à un mois pour réfléchir sur les diverses options et je suis là. Très bien.
Parlons-en des options.
Oui.
Vous en aviez quelques-unes.
Oui.
Docteur Vavasis vous a communiqué un peu les grandes lignes.
Oui.
Vous êtes allé vous informer. Oui. Vous avez fait un choix.
Oui.
Était-il d'accord avec votre choix?
Non. Parce que c'est un homme de science, c'est un scientifique. Lui, il va me dire, Jean, et puis Peter, maintenant que nous sommes devenus amis, Peter pense toujours en plan A, plan B, plan C, plan D. C'est-à-dire, si le A échoue, on a un B. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis du genre, je vais évaluer le risque. Je n'aurai pas de plan B. Je vais faire ça exactement.
Ça va fonctionner.
Ça va fonctionner. Et puis, si ça ne fonctionne pas, c'était dans mon destin et j'assume.
OK.
Dans mon cas, Peter me dit, Jean, vu ton âge, vu l'état de la gravité...
Vous aviez quel âge?
Quel âge j'avais en ce moment? C'est
48. OK.
Oublie-moi, c'est
merci.
Moi.
Désolé.
Donc, il me dit, Jean, dans ton cas... Et là, il m'explique, il dessine. Et dans le livre, c'est vraiment lui qui dessine. Ça ne vient pas d'un ordinateur. Il me dit, Jean, voici l'état de ton cancer. Ce serait préférable que tu prennes... comment ça s'appelle? C'est l'option qui consiste à arracher là. Mon cerveau.
La prostatectomie.
Je rejette toujours ce
mot.
Prostatectomie. Il me dit, si tu veux... Oui, dès le début, il me dit... Si tu optes pour ce choix-là et que ça ne marche pas, on a un deuxième plan. Ton deuxième plan, si tu le prends en premier et que ça échoue, j'ai pas de plan B. Et Peter est un gars de A, B, C, D. Même sa femme qui est devenue mon amie, Peter a des plans sur A, B, C, D, sur tout
l'alphabet. Tous les sujets.
Ah oui, si ça échoue, on fait ça. Moi, je ne suis pas comme ça.
Okay.
J'entends les inconvénients. Je suis un gars de 48 ans. Ma sexualité, elle est importante. La prostatectomie. Arrache. Bon, la chirurgie, voilà. Arrache ça. Et puis, pendant un certain temps, au niveau de ta bande, on va se dire les vraies choses, ça baisse un peu. J'aime moins ça. J'ai dit, mais l'autre option. J'ai dit, mais l'autre option, genre, tu n'as pas tous ces inconvénients-là, sauf que ça durcit, enfin, puisque ça brûle, c'est quand même la radio. La radiation, ça brûle une partie enfin, c'est lui qui connaît les termes. Mais si ça ne marche pas, on ne peut pas revenir en arrière pour dire on va prendre la A. OK. Et là, il me présente les chiffres. C'est aussi un gars de chiffres, de statistiques, etc. Mais je dis, il me semble qu'au niveau des statistiques, j'ai 90% de chances que ça marche, autant que dans l'autre. Donc, si pour les 10%, ça ne marchait pas, c'est que c'était dans mon destin que ça ne marchait pas. Et lui, il a tout fait pour essayer de me ramener à A pour qu'au cas où A ne marche pas, je puisse tomber à B. Et j'ai dit non, ce sera B.
C'est ce que j'allais vous demander. On fait quoi avec un patient qui est très clair dans son choix, mais avec lequel on n'est pas vraiment d'accord?
Oh, je vais nuancer. Si je ne suis pas d'accord avec un traitement, je ne vais pas le faire. Je vais référer le patient à un autre médecin pour la deuxième opinion. Si tu as fait le tour des oncologues de l'île, personne ne veut le faire, mais clairement, ce n'est pas le bon traitement et tu es en train de faire un mauvais choix. Donc, si je ne suis franchement pas d'accord, je ne vais pas le poser. Mais je ne vais pas bloquer le patient, je vais le référer à un collègue. Peut-être c'est moi le problème. Il faut voir. Mais il y a être pas d'accord, il y a être en désaccord avec le choix. C'est-à-dire... me faire couper les cheveux, oh, c'est pas le couple que j'aurais recommandé pour toi. Ça, c'est simplement un désaccord de goût. Donc ici, j'ai donné à Jean plusieurs choix, plusieurs options thérapeutiques qui sont tous valides. Celui que j'aurais pris n'était pas celui qu'il a choisi. Et ça, il faut le respecter parce qu'il choisit dans la validité. S'il m'avait dit, finalement, moi, je vais aller manger du poisson, j'ai entendu que ça guérit le cancer de la prostate. Moi, là, je veux dire, ce n'est pas moi qui vais aller t'acheter du poisson et t'accompagner là-dedans.
Okay. Ce
n'est pas ça.
Non, on parle de traitements.
Mais on parle de vrais traitements valides.
Quand même valides.
S'ils sont valides, ils sont bien. J'ai aussi des patients qui viennent avec une maladie à très haut risque qui disent j'ai entendu que je peux me faire opérer. Le chirurgien ne veut pas t'opérer parce que ce n'est pas propice à ça. Je ne pense pas que c'est une bonne option. Le chirurgien ne va pas t'opérer parce que tu le demandes, parce qu'on n'est pas au restaurant en train de commander.
D'accord.
Donc, c'est ça la nuance à faire. Mais Jean n'a pas fait un choix qui est un mauvais choix médical. Il n'a simplement pas fait le choix que j'aurais fait. Et le temps pour dire le punch avant la fin, le temps lui a donné raison parce que ça a marché.
Heureusement.
Et malgré un petit scare qu'on a eu, un petit moment de peur, là. Et double raison, et ça, je ne te l'avais pas dit parce que c'est hier qu'on a pris la décision finale, on est en train de bâtir une idée de recherche où tu puisses refaire de la radiothérapie de
l'œil. Ah, voilà.
Donc, tu vois, aussi, ça va ouvrir
la séance de mon temps.
Mais,
l'intuition.
Comme tu es souvent, l'intuition lui donne cet avantage. Donc, tout change en même temps. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Il ne faut pas arriver avec une idée fixe et dire, bon, voici les règles, voici les choix. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus dire à quelqu'un, non, tu ne fais pas le bon choix. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'approcher non plus. Et le médecin doit rester ouvert.
Oui, la relation patient. La relation, voilà, j'aime ça. La relation patient, enfin médecin-patient, elle est importante. Parce que, il l'a dit tout à l'heure, quand tu es patient, tu arrives écrasé, doublement écrasé. C'est toi qui es malade et tu ne comprends rien à ce dont tu souffres. Lui, il a un bagage de connaissances et d'expériences, il en a vu plein. Et d'une certaine manière, il est qualifié pour t'aider à faire le bon choix. Sauf que tu n'es pas au même niveau de cheminement que lui.
Non, c'est sûr. Lui, il envoie 10, 12 par jour.
D'où l'importance pour lui de rester ouvert et de dire, et j'aime bien sa formule, ce n'est pas ce que j'aurais pris comme choix. Peter, encore une fois, c'est un gars de A, B, C, D. Mais dès qu'il m'a présenté les divers choix et que ce sont des choix scientifiques, validés, la personnalité intervient. Je suis un riscophile. Je vais prendre des risques. Ouais. Et je vais dire, OK, si ce couloir-là existe, je vais y aller parce que j'estime, dans mon cas, là où j'en suis, il y a moins d'inconvénients comparés aux inconvénients de l'autre choix qui, lui, s'il échoue, me laisse d'autres choix quand même.
Pour vous,
pour
Jean.
Pour moi, Jean.
Et j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est qui le premier maître à bord dans cette aventure-là?
Et là, c'est ma vision. Il y a peut-être d'autres médecins qui diraient qu'il n'a pas raison.
Oui.
Et je serais prêt à le débattre et à les écouter. Mais instinctivement, aujourd'hui où je suis rendu dans ma pratique, dans ma carrière, je pense que le médecin est au service
du patient.
Je fournis un service. De la même façon que la plupart des institutions avec n'importe quelle expertise. La police est au service de la population. L'armée est au service de la nation. C'est en dedans de notre expertise. Une partie de ce service, c'est de ne pas laisser le patient faire une erreur monumentale grave. C'est une partie du service.
Vous guidez quand même.
Mais on guide. On est à l'écoute. On respecte. On s'ajuste. Je crois vraiment que le rôle y est là. Et encore une fois, juste pour lui donner raison, aujourd'hui, si on avait la même conversation qu'on a eue il y a 5 ans maintenant, je serais beaucoup plus à l'aise de dire « Oh, je prendrais la radiothérapie aussi à ta place. » Parce que l'avancement des connaissances fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres options.
Les recherches.
Oui, exactement. Donc, encore une fois, à quel point ça serait bête de simplement dire « Mais non, tu sais bien, t'es pas éduqué dans ça, c'est pas ton expertise. » Parce que finalement, 5 ans plus tard, pas du tout un mauvais choix. Au contraire, c'est un bon choix et aujourd'hui, peut-être devient même le choix.
Mais c'est rassurant.
Permets-moi, Isabelle, sauf que le fait par moi d'avoir choisi cette option-là,
à ce moment-là,
je commence par dire, j'en savais rien. Mais c'est grâce aux informations simplement présentées qu'il m'a données que j'étais en mesure de faire un choix éclairé. Même si ce choix-là, ce n'était pas son choix à lui. Mm-hmm. Mais les informations, il me les a présentées honnêtement. Mm-hmm. Et je n'ai jamais senti de son côté une volonté de me
contrôler
le bras. Non, c'est mon corps. Mais c'est lui l'expert.
Mais c'est intéressant, puis c'est rassurant de vous entendre parce que déjà, quand on entend le mot cancer, on est un peu beaucoup vulnérable. Mm-hmm. On perd ses moyens. Mm-hmm. On a l'impression de perdre son pouvoir aussi sur la vie, sur peu importe, là. Et d'entendre qu'on reste maître de sa destinée, de ses choix, de tout ça. Parce que des fois, j'ai l'impression que peut-être le réflexe des gens, c'est de remettre ça dans les mains de quelqu'un qui, à la base, ne connaissent absolument pas, ils ne savent pas c'est qui, ils n'ont pas encore cette relation-là que vous avez ensemble.
Absolument. Il y a là-dedans aussi une certaine défense qui se fait. Donc, si je me brûle, je vais m'éloigner du feu. Donc, c'est un peu la même chose que j'ai un problème brûlant. Et là,
je veux m'en débarrasser. Oui, la patate chaude, là.
Exactement. je te le remets entre tes mains. Ouais. Et en plus que tu es un expert fait pour le recevoir, ben encore mieux, parce que là, si je dois choisir entre les deux, ben, je prends celui qui est expert, toi. Mm-hmm. Donc, je comprends aussi cet instinct-là. Et je l'entends souvent. C'est pas vraiment qu'est-ce que vous feriez à ma place, parce que j'entends ça, et ça, je trouve très balayé comme question. Mais beaucoup plus de c'est vous qui choisissez. Vous savez mieux que moi, vous choisissez. Ça, moins. J'essaie de ramener la personne à OK, je vais dire que ce que je ferais à ta place, mais je vais pas choisir pour toi. Le choix doit venir de toi. Tu peux juste me dire oui à la fin. Je peux te donner les choix, tu peux me dire oui, mais il faut que ça vienne de toi.
Ça serait quoi le conseil que vous auriez à donner à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic, parce que c'est quand même 12 hommes par jour au Québec qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate, pour faire un choix éclairé? Vous avez fait une liste de questions, vous êtes parti de vos valeurs, vous êtes parti de où?
Voilà. Je ne dirai jamais le nom de mon urologue, et ce n'est pas pour le faire mal paraître, il fait de son mieux. Lorsque mon urologue m'a annoncé mon diagnostic, il avait la tête par terre. Il m'a dit, monsieur Fissélé, vous avez le cancer, c'est pas grave, étant donné le niveau de gravité, je vais vous remettre un livre, lisez-le et rappelez-moi dans un mois pour dire ce que... Non, c'était un ordinateur pour me dire ça.
Il aurait pu vous appeler au téléphone.
Oui, bien sûr, non, c'est... Non. N'oublions pas, hein, le patient n'est pas un corps, c'est un humain, avec des sentiments, avec des vulnérabilités, avec ses hauts et ses bas. D'autant que dans mon cas, 48 ans, je n'ai jamais été malade. Je ne m'attendais pas à recevoir ce diagnostic-là. Et mon urologue, n'a... peut-être qu'elle avait ses problèmes aussi, parce que souvent on oublie que le médecin est aussi un humain. Il a ses maladies, il a ses vulnérabilités. Et j'ai appris par la suite qu'il était malade aussi. Il a une femme, il a des enfants. Donc,
oui, il y a un contexte.
Il a un contexte. Et je ne peux pas le blâmer, lui, pour le message qu'il m'avait envoyé là. Donc, on est en train de se parler, c'est-à-dire comment ça devrait se faire dans le rapport patient-médecin. Mais on s'attend à avoir un peu plus d'empathie.
Étiez-vous seul quand vous êtes allé?
J'étais seul parce que je ne m'attendais pas à avoir ce diagnostic-là. Je pensais que c'était un résultat de routine. Parce que si j'avais un historique de maladie, je revenais de vacances, je revenais... ça faisait un jour que je revenais de croisière, là, d'une croisière.
Confiant.
Oui, confiant. Mais voilà, bien. Parce que Peter nous le dira lorsqu'il s'agira de présenter l'aspect technique de la chose, mais la prostate est une maladie silencieuse, insidieuse, vicieuse. Au moment où vous vous rendez compte, c'est qu'il est déjà trop tard. Et donc, moi, j'avais absolument, à part le fait d'uriner souvent, etc., et à ce moment-là, uriner souvent, pour moi, n'allumait pas des lumières dans mon cerveau, puisque je ne savais pas à quoi associer cela. Donc, moi, j'étais confiant, j'étais en santé, je ne m'attendais pas à cela. Donc, je suis allé recevoir le diagnostic seul. Et mon médecin n'a pas... Encore une fois, je ne le blâme pas. On est en train de réfléchir au rapport patient-médecin. Il n'a pas fait montre de cette empathie-là, ne serait-ce que me faire ça. Il n'y avait pas de pandémie alors.
À refaire, vous iriez seul encore ou vous seriez accompagné?
Non, j'aurais été accompagné.
Oui,
oui, bien sûr. Oui.
Absolument. Oui. Et c'est intéressant d'entendre Jean parler parce que je connais les acteurs de cette drame-là. Mais non, mais de cette drame, de ce qu'on a vécu. Je connais les acteurs, je connais les gens des miens, je connais leur qualité, leur grande qualité. Je suis choyé, je travaille avec un groupe de médecins qui sont fantastique. Une partie de toute réalité est la perception de l'observateur. Donc, si personne regarde, il n'y a rien qui se passe. Si quelqu'un regarde, mais quelque chose se passe basé sur ce qu'il voit et qui peut correspondre à ce qu'un autre verrait ou non. On a ici un être humain qui va rencontrer un autre être humain. L'autre être humain lui donne des nouvelles qu'il n'attendait pas, premièrement, qui sont très mauvaises, qui bouleversent la vie. Donc, il n'y aurait pas de façon de bien faire ça, on s'entend. Premièrement. Et deuxièmement, il n'y a en plus aucune préparation parce qu'il ne s'attend pas à ça.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est sûr que si tu te promènes avec une grosse plaie et tu attends le diagnostic de la plaie, mais là, c'est évident qu'ils ne vont pas te dire qu'il n'y a pas de plaie. Il y a une plaie, on la voit. Mais ici, comme il dit, c'est silencieux, la prostate. Donc, il s'attend de se faire dire finalement, la biopsie est négative, on fera une autre dans 2 ans, bonne journée.
Ouais.
On surveille ça. Donc, il y a ça aussi qui amène que la perception du patient, dans ce cas, mais dans la perception de chaque patient, va être très particulière par rapport à cette annonce-là, cette nouvelle. Le médecin doit s'ajuster à ça, c'est certain. Le patient doit aussi, dans sa préparation, et c'est là où il peut avoir une meilleure préparation, se préparer, si j'entends ça.
Ouais.
Et là, les fameux plans de Peter.
Oui,
mais,
sûr, oui.
Ouais.
Si j'entends
mais
ça.
C'est excellent. Fais,
donc, là,
ouais.
Accompagner.
Ouais.
Et ça serait intéressant d'avoir déjà été sur le site de procure regarder, s'informer. Parce que là, tu dis, ça se peut qu'on me dit cancer de la prostate.
Et bon. Si je suis face à ça, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir?
Est-ce que je suis accompagné de quelqu'un qui écoute en même temps que moi? Est-ce que j'ai quelques questions de base? Peut-être la question, c'est quoi la prochaine étape? Mais au moins, tu vas poser cette question. C'est une question. Mais cette préparation-là a une valeur, une validité. De se faire accompagner est primordial. Ça fait une grosse différence d'avoir quelqu'un sur qui l'on s'appuie.
Moi, j'en aurais une question.
Là, pour ça,
une seule?
Bien, ça serait ma première. Puis j'ai comme un malaise à la poser, mais je vais la poser parce que si j'étais devant vous avec mon mari, mon fils, mon père, et qu'on annonçait à un de ces hommes de ma vie-là, qu'il a le cancer de la prostate. Ma première question, ça serait, docteur Vavassis, est-ce qu'en 2022, on meurt du cancer de la prostate?
Donc, ce n'est pas une question de date, autant que c'est une question de stade, à quel moment on l'a attrapé. Mm-hmm. C'est-à-dire, si en 2022, on vit comme si on était en 1922, pas de dépistage, pas de médecin, pas de questions, pas rien jusqu'à temps que je ne peux plus marcher. Bon, mais c'est certain que là, on meurt du cancer de la prostate.
Okay.
Par contre, et là-dedans, il ne faut pas penser que chaque patient qui a une maladie grave a négligé non plus. Il y a simplement des gens malchanceux où ça a été très, très rapide. Ouais, ils n'ont eu aucune chance.
Tout à fait.
Mais si on veut mettre tous les gens de notre bord, on se fait suivre, on se fait dépister, on se fait surveiller. Bon, c'est 50 ans, on a un médecin avec qui on prend contact régulièrement. C'est normal. C'est un parcours normal de la santé de l'être humain. Donc,
Dans un pays développé.
Dans un pays développé, encore une fois. Bien dit, Jean. Absolument, un luxe qu'on a au Canada. Dans ce contexte-là, attrapé à son début, mm-hmm. notre taux de guérison pour le cancer de la prostate devrait être autour de 90%.
Wow.
Et qui est excellent. Et probablement les gens qu'on échappe un peu, que la maladie revient. C'est vraiment des gens qui avaient une maladie plus avancée qu'on pensait et que nos instruments d'aujourd'hui n'ont pas pu déceler à temps pour faire le traitement approprié. Donc, on les a sous-traités un peu en pensant que ce n'était pas aussi avancé. Ils étaient juste sur le bord. Donc, il y a juste quelque chose qui a été manqué. Mais là, je ne parle pas de manquer par erreur.
Non,
je parle d'eux dans la capacité du possible. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, comme pour reprendre l'exemple de la météo. Si on avance, à chaque semaine qu'on avance, la météo devient moins précise. Ce n'est pas la faute à personne, c'est les modèles sur lesquels on travaille. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Mais la réponse rapide, la réponse courte, est qu'en 2022, avec un bon système de santé comme on a au Québec, on devrait se retrouver que la vaste majorité des gens qui font face à la prostate peuvent s'en sortir avec un bon résultat.
Et ça, c'est précisément ça qui nous a fait dire. Parce que la deuxième fois, je suis allé avec ma conjointe. Et puis là, c'est un mouvement de respiration. Parce que tu dis cancer dans la tête de toute personne non préparée comme moi. Parce que moi, je n'avais jamais lu sur la prostate. Je n'avais jamais lu sur...
Et pourquoi le faire?
Oui, pourquoi le faire? Parce que il n'y avait aucun intérêt. Et lorsqu'il m'a présenté ça, avec toutes les nuances qu'il a présentées quand même, il dit... Si on fait ça, on fait ça, on fait ça, et dans ton niveau à toi, le stade, si tu suis ce qu'on te dit, ce n'est pas le cancer de la prostate qui va tuer.
Mm.
Et c'est la phrase qu'on veut entendre.
Oui, hein.
Parce qu'il prend le temps de nous présenter l'état de la science. Donc, c'est pas du baratin qu'il fait, mais il dit, étant donné l'état de la science, étant donné le système dans lequel on est privilégié quand même, ça, moi je viens d'Haïti, ça va au moins. Plus de 10 000 personnes sur une population de 14 millions n'ont pas accès à une personne qui travaille dans un personnel de la santé. Donc, moi, je suis privilégié que d'avoir médecin de famille, médecin, spécialiste, etc. Donc, waouh. Et là, ça a été pour moi un boost, une espèce de
propulseur.
J'ai dit, OK. Donc, je vais suivre ces conseils. Je vais venir régulièrement. Et lorsque j'entrerai dans la thérapeutique, je vais venir littéralement tous les matins faire ce que j'ai à faire. Voilà.
Vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes? Contactez-nous 7 jours sur 7 au 1-855-899-2873 pour discuter de façon confidentielle avec une de nos infirmières spécialisées en neuro-oncologie qui prendra le temps de vous écouter et de vous fournir des réponses éclairées. L'équipe de soutien Procure est là pour vous.
Je vous écoute, j'admire, je suis très inspirée par votre relation, par ce que vous partagez avec nous aujourd'hui. Je me mets quand même dans la peau de certains hommes, peut-être, qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, j'ai pas cette relation-là. Moi, avec mon médecin, ils sont chanceux. » Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est une loterie qu'on... Est-ce qu'on voudrait faire la file pour avoir Dr. Vavasis? Est-ce que...
Il
oui, mais Dr. Vavasis ne peut pas se décupler oui. cloner.
Je sais que tu es un peu pas modeste, mais je vais dire un peu.
Peter... Est-ce que je peux quitter la pièce?
Non, c'est pas ça. Peter, c'est un médecin, mais qui ne se voit pas médecin d'abord, qui est humain. Rapidement, tu veux l'appeler Peter, parce qu'il comprend. Et son empathie n'est pas factice, c'est une empathie réelle. Et ensuite, il y a la compétence. Quand tu as l'empathie associée à la compétence, mais c'est normal, tu es réceptif, parce que nous, les hommes, là, Isabelle, tu as eu un père qui est...
Oui.
Quand on a cette maladie-là, on est crispé, on dit, ah non, c'est pas ça, parce que la civilisation judéo-chrétienne veut que l'homme soit comme une espèce de robocop. Là.
Ça ne se peut pas.
Ça ne se peut pas. Et si tu es malade, tu échoues.
Ouais.
Parce que regarde, là, c'est quoi ça, un homme qui est malade? Et tu vas voir le médecin un peu à reculons. Dans la culture haïtienne, on donne toujours la blague du gars qui va voir son médecin, mais avec sa femme. Et puis son médecin lui dit, mais alors, dites-moi de quoi vous souffrez, qu'il m'a demandé à ma femme. C'est ma femme qui sait, parce que c'est un peu pour elle qu'on est là. Et c'est pour ça que la maladie de la prostate, même si c'est seulement l'homme qui l'a, c'est une maladie familiale.
Oui.
On a besoin du support de la conjointe, parce qu'il y a ces matins où on refuse, littéralement. D'abord, on est dans le déni,
oui.
Précisément parce que la prostate est associée à notre sexualité. On a honte. Moi, je peux vous le dire, on a honte parce qu'on ne veut pas que les gens sachent. Parce que si on a la prostate, donc on est moins performant sexuellement, donc, mais qu'est-ce qui reste de notre virilité? C'est comme ça qu'on perçoit ça. C'est pas vrai, mais c'est ça. Et donc, quand on a un médecin de qui on se sent proche et à qui on peut tout dire, je ne me suis pas senti une espèce de fast-food là, et donc, regarde là. Où is next? Ok, Jean, tu as quoi là? Et puis là, il va passer. Non, j'ai eu une relation vraiment humaine avec lui. Et puis, quand Peter me disait quelque chose, à un moment donné, je ne prenais. Et puis, lui, il m'invitait à avoir un deuxième avis. Je lui dis, ah, lâche-moi un peu là. Tu sais que je te fais confiance. Maintenant, je consulte un deuxième avis. Non, parce que au fil du temps, tu m'as prouvé que tu étais compétent. Tu ne me baratinais pas, tu étais vrai. Mais voilà.
Mais ça arrive. J'imagine que vous recommandez. Vous, de votre côté, vous pouvez ne pas avoir d'atome crochu non plus avec un patient, ça se peut.
Absolument.
À ce moment-là, vous le référez à quelqu'un d'autre. Absolument. Et peut-être que ce sera une meilleure, je ne sais pas moi, combinaison.
Il ne faut pas, et je pense que ça s'applique à la vie, ce que je dis, il ne faut pas forcer les situations. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre un carré et le rentrer dans un cercle. Parce qu'à un moment donné, il n'est pas fait pour ça. Et ça va toujours être plus proche. Et je pense à ces temps à la relation avec le médecin. On est vers une ressource limitée. On ne peut pas avoir 8 consultations. Il ne faut pas prendre ça et dire, mais moi, je vais continuer avec
le médecin. J'allais vous demander, est-ce qu'on a ce luxe-là?
Non. Mais je pense qu'on a certainement le droit, pas le luxe, le droit fondamental vers la deuxième opinion. On a le droit fondamental vers une certaine sérénité dans la relation. Ça n'a pas besoin d'être l'amour, mais un respect mutuel. La communication, bon, qu'on a déjà partagé, hein, la communication, la capacité
du patient, là, c'est important.
Et c'est là que, ça, oui, si on n'a pas ça, je pense qu'il faut être honnête avec son médecin et dire, écoutez, moi, de mon côté, je ne suis pas à l'aise. Il faut avoir la
capacité
de faire ça, parce que l'enjeu est rien de moins dans ce cas-ci que la vie de quelqu'un. Mais même si ce n'est pas la vie, et c'est simplement une santé autre, c'est quand même un enjeu. C'est quand même un enjeu majeur. Je ne ferais pas affaire avec un magasin que je ne me sens pas bien accueilli.
Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses besoins, je crois.
C'est ça.
En tant que patient, de le dire.
Ce n'est pas juste au médecin toujours de « êtes-vous bien? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous comprenez? » Oui, il y a ce rôle-là, le médecin. mais au patient aussi, de dire, je ne suis pas d'accord, ou merci pour l'explication, je ne comprends pas.
Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire qu'on ne comprend pas.
Mais parfois, on a honte de le dire. Parce que, n'oublions pas. Hein.
C'est pour ça que vous amenez votre femme.
Tout à fait.
Ou votre fille.
Parce que le médecin, il est perçu comme celui qui sait tout. C'est normal. Il est celui qui a étudié pour tout me dire sur mon corps.
C'est très drôle parce que ça m'arrivait d'accompagner papa à ses visites chez le médecin. Premièrement, il ne disait pas tout. Il oubliait de dire qu'il était tombé, il oubliait de dire qu'il y avait des maux de cœur, il oubliait de dire, bon, mais il oubliait. C'est un grand mot. Et ça m'arrivait de le regarder puis de faire, pas sûr qu'il a compris. Et là, je posais la question naïvement au médecin, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas sûre, moi, je ne comprends pas. Non, vraiment, là, pouvez-vous répéter ou me l'expliquer?
Nous, on ne le dirait jamais comme ça parce que déjà, le gars, n'oublions pas, le médecin, dans la société, a toujours été comme ça, la société occidentale, il est placé là.
Oui, c'est vrai. Il sauve des vies.
Oui, il sauve des vies. Et moi, je suis le malade. Donc, il a un double pouvoir sur moi, le pouvoir du savoir et le pouvoir du savoir-faire. Parce que c'est... Donc,
c'est bien.
Même lorsqu'on va poser une question, on fait attention à la formulation pour ne pas avoir l'air d'un imbécile devant lui, parce qu'il y a des médecins qui te font sentir, ben non, là, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas comme ça. Et c'est pour répondre à ta question, Isabelle, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme ingrédient dans la relation patient-médecin? Parfois, le médecin donne l'impression au patient que sa question est bête. C'est à la limite imbécile. Moi, là, je suis PhD, mais je n'avais jamais lu pas une seule ligne sur la prostate. Ça ne m'intéressait pas. Je faisais tout pour ne pas avoir à lire là-dessus. Donc, moi, quand on parle de ça, je ne savais rien là-dessus. Rien et rien et rien.
Mais c'est normal.
Absolument.
Et donc, il ne faut pas s'exiger.
Et donc, mes questions au début étaient des questions...
De base.
De base, des questions de crétins, des questions d'enfants. Et imagine si j'avais gardé tout ça en dedans de moi parce que le médecin qui est tout savant devant moi me faisait comprendre ou m'envoyait le message que « Fais attention à tes questions, elles sont trop de base. » Mais bon Dieu.
Ouais. C'est un bon conseil, ça. Je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'il ne faut pas avoir peur de sa non-connaissance ou de son ignorance un peu sur un sujet qui finalement vient de nous tomber dessus tout d'un coup.
On commence tous comme ça dans chaque sujet.
Tout à fait.
Le médecin a commencé à étudier la première journée. Cette première journée, il n'était pas fort. Donc, tout le monde parle là.
Mais j'aime votre commentaire. Il faut se remettre à niveau.
Oui.
C'est vraiment bien dit.
Il m'appelait son billet.
Vous êtes formidable, monsieur. Je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur pour ce que vous faites, ce que vous venez de partager avec nous. Je suis certaine que ça va guider, aider, soutenir les hommes qui soit reçoivent le diagnostic ou vont le recevoir éventuellement. Je répète ce chiffre-là, 12 hommes par jour au Québec, c'est énorme. Alors, tout le monde connaît quelqu'un dans la famille, dans le milieu de travail, qui a eu ou a un cancer de la prostate ou qui l'aura, évidemment. Alors, je vous remercie. Je répète, vous avez écrit le livre « Le cancer de la prostate en noir et blanc », tous les deux, ensemble. Alors, si vous voulez rire, pleurer, être touché et en apprendre. J'allais enchaîner avec apprendre.
Très bien illustré par Peter. C'est pas un nom.
Je vous le recommande fortement. Et je vous invite à suivre notre nouvelle série de balados cancer de la prostate sans tabou sur le site web de procure.ca. À la prochaine.
Merci d'avoir écouté Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure. Pour en savoir plus sur le cancer de la prostate et nos épisodes de balado diffusion, rendez-vous sur procure.ca.